Chapitre 12. La nuit du jeudi se passa sans amener aucun fait nouveau, mais le vendredi nous apporta de nouvelles. En premier lieu, le garçon boulanger dit avoir rencontré dans l'après-midi précédente Rosanna Spearman, couverte d'un voile épais, et se dirigeant vers Freezing Hall par le sentier de la lande. Il aurait été étrange que quelqu'un eût pu se tromper sur la personne de Rosanna, que son épaule contrefaite rendait bien reconnaissable. La pauvre fille. Et pourtant l'erreur ici était évidente, puisque ce jeudi-là, Rosanna était restée malade et enfermée dans sa chambre. La seconde nouvelle nous fut apportée par le facteur. Le digne M. Candey n'avait pas été plus heureux dans sa plaisanterie sur son propre compte que dans celle qu'il faisait sur le prochain. Et lorsqu'il avait comparé la peau de docteur à un tissu imperméable, le cher homme était tombé dans l'erreur. La preuve en était que, mouillé jusqu'aux os, la fièvre l'avait pris, et le facteur nous le dépeignait comme ayant le délire et bavardant autant dans cet état que dans la vie habituelle. Nous fûmes tous affligés pour le docteur, mais M. Franklin parut surtout contrarié de sa maladie à cause de Miss Rachel. D'après ce qu'il dit à Milady en ma présence au moment du déjeuner, il semblait craindre que sa cousine n'eût besoin de soins très sérieux. Pour peu qu'elle n'eût pas promptement l'esprit mis au repos, en ce qui touchait à l'aventure du diamant. Peu après le déjeuner, arriva par dépêche télégraphique la réponse de M. Blake Père. Il annonçait à son fils qu'avec l'aide de son ami le directeur en chef de la police, il avait mis la main sur l'homme qu'il nous fallait dans les circonstances présentes. Il nous envoyait le sergent Caff, et nous pouvions compter sur son arrivée chez nous pour le lendemain matin. En lisant le nom de cet officier de police, M. Franklin fit un brusque mouvement. Il paraîtrait que l'avocat de son père lui avait déjà raconté, durant son séjour à Londres, de curieuses anecdotes sur le sergent Caff. « Je commence à croire que nous verrons la fin de toutes nos incertitudes, » dit-il. « Si la moitié des bruits qui courent au sujet de Caff est vrai, il n'a pas son pareil en Angleterre pour débrouiller une affaire. » Tout cela nous rendit impatients de voir apparaître cette célébrité. L'inspecteur Seagrave revint à l'heure fixée, et lorsqu'il apprit qu'on attendait l'arrivée du sergent, il s'enferma sur le champ, armé de plumes, d'encriers et de papier, pour se mettre en devoir de rédiger le rapport qui lui serait certainement demandé. J'eusse désiré aller moi-même chercher M. Caff à la station. Mais le poney-chaise étant requis pour M. Godfrey, il ne pouvait être question des chevaux de la voiture de Milady, même pour ramener une célébrité telle que le sergent. M. Godfrey exprima ses regrets très affectueux à sa tante de se voir contraint de la quitter dans un pareil moment. Il remit même gracieusement son départ à l'heure du dernier train, afin d'être à même d'entendre l'opinion de l'habile officier de police envoyé de Londres. Mais il lui fallait d'urgence être rendu à Londres vendredi soir, car samedi matin, un comité charitable avait à le consulter pour sortir de graves embarras. Lorsque le moment de l'arrivée du sergent approcha, j'allai jusqu'à la grille afin de le recevoir. Un cab du chemin de fer arrivait à la loge en même temps que moi. Il en sortit un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et d'une maigreur telle qu'il ne possédait certes pas une once de chair sur les os. Ses vêtements étaient propres et noirs, il portait une cravate blanche. Sa figure en lame de couteau était recouverte d'une peau jaune et sèche comme les feuilles d'automne. Et ses yeux gris d'acier vous fixaient d'une façon gênante, comme s'ils eussent voulu lire dans vos pensées plus avant que vous-même. Sa démarche était silencieuse, sa voix mélancolique, et ses longs doigts maigres vous faisaient penser à des griffes. Il eût pu être un pasteur, un officier des pompes funèbres, ou tout autre employé que vous voudrez, sauf ce qu'il était en réalité. Je ne crois pas possible de trouver un contraste plus frappant que celui qui existait entre lui et l'inspecteur Seagrave, et, certes, pour une famille affligée, son apparence était peu consolante. « Suis-je chez Lady Verinder ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Je me nomme le sergent Caff. Veuillez me suivre, monsieur. » Pendant le trajet, je me crus obligé de lui apprendre ma position dans la famille, afin de le mettre à l'aise, et pour qu'il puisse s'entretenir avec moi de l'affaire qui allait l'occuper. Mais il n'en souffla pas mot. Il admira les jardins et observa qu'on sentait le voisinage de la mer à la vivacité de l'air. Je m'étonnais, dans mon fort intérieur, de la réputation faite à M. Caff. nous atteignîmes la maison dans l'aimable disposition de deux dogues attachés à la même chaîne pour la première fois de leur vie. Je demandai Milady. Sur la réponse qu'on me fit qu'elle était dans les serres, j'envoyai un domestique la prévenir et nous entrâmes dans les jardins à fleurs. Pendant que nous attendions ma maîtresse, M. Caff, regardant à travers la voûte de verdure à sa gauche, aperçut notre parterre de rosiers et se dirigea immédiatement de ce côté avec la première apparence de vivacité que je lui eusse vue. Ce qui étonna beaucoup le jardinier et excita secrètement mon mépris, ce fut que le fameux agent de police se trouva être un puits de science sur l'article ridicule de la culture des roses. « Ah, vous avez ici la bonne exposition, sud et sud-ouest, » dit le sergent en balançant sa tête grise et en donnant à sa voix mélancolique une intonation presque joyeuse. Pour un parterre de rosiers, rien de mieux que cette forme-ci, un cercle contenu dans un carré. Oui, c'est bien cela, des allées entre chaque plate-bande, mais elles ne devraient pas être sablées comme celle-ci. Du gazon, monsieur le jardinier, des allées de gazon entre vos arbustes. Le gravier est trop sec pour les roses. Voilà un joli carré de roses blanches et de roses aurores. C'est un mélange qui fait toujours bien, n'est-ce pas? Voici la rose blanche musquée, monsieur Bettridge, notre vieille rose anglaise qui tient bien sa place au milieu de toutes ces jolies nouveautés, la belle petite, fit le sergent tournant la rose musquée entre ses doigts et lui parlant avec câlinerie comme à un enfant. Voyons, était-ce là l'homme qui ferait rentrer Miss Rachel en possession de son diamant et qui parviendrait à mettre la main sur un voleur? Vous paraissez fort aimer les roses, sergent, lui dis-je. Je n'ai guère le temps d'aimer beaucoup quoi que ce soit, me répondit M. Caff. Mais quand j'ai un moment à donner à la tendresse, le plus souvent, M. Bettridge, ce sont les roses qui en profitent. J'ai commencé la vie au milieu d'elles, chez mon père qui était horticulteur, et j'espère bien finir mes jours en leur compagnie. Un de ces matins, s'il plaît à Dieu, je cesserai de découvrir des voleurs et j'essaierai d'élever des rosiers. Mais, jardinier, il y aura des sentiers gazonnés entre leurs rangs, reprit le sergent, auquel les allées de gravier de notre parterre laissaient une impression défavorable. Cela me semble un assez singulier goût, monsieur, me hasardai-je à lui dire, dans la carrière que vous avez adoptée. Si vous regardez tout autour de vous, ce que la plupart des gens ne font pas, reprit M. Caff, vous serez convaincu que presque toujours les goûts d'un homme sont en contradiction avec la nature de ses occupations. Ainsi en est-il pour moi. Si vous trouvez une opposition plus forte que celle des voleurs et des roses, je tâcherai de modifier mes goûts, bien qu'il soit un peu tard à mon âge. Vous vous servez de la rose incarnate pour greffer les espèces tendres, n'est-ce pas, monsieur le jardinier? Je le pensais bien. Ah, voici une dame qui s'avance vers nous. Est-ce Lady Verinda? Il l'avait aperçue avant que ni moi ni le jardinier nous fussions doutés de son approche. Et cependant, nous savions, nous, de quel côté elle pouvait venir, tandis que lui l'ignorait. Je commençais à le croire plus intelligent qu'il ne le paraissait à première vue. L'aspect du sergent, ou la mission qu'il venait remplir, peut-être l'un et l'autre, semblèrent causer à Milady quelque embarras. Je la vis pour la première fois depuis que je la connaissais, ne sachant que dire à un étranger. Mais M. Caff sut la mettre à l'aise presque aussitôt. Il demanda si un autre de ses collègues avait été chargé avant lui d'éclaircir l'affaire du vol. Quand il eut appris qu'un autre personnage avait été mandé et se trouvait encore dans la maison, il exprima le désir de causer avec lui avant de prendre aucune mesure nouvelle. Milady marcha en avant pour rentrer. Avant de la suivre, le sergent ne put s'empêcher d'adresser une injonction finale au jardinier. « Décidez Milady à essayer des sentiers gazonnés, lui dit-il, jetant un regard sévère vers les allées sablées. Pas de gravier surtout. Je serais bien en peine d'expliquer le pourquoi, mais toujours est-il que présenté au sergent Caff, M. Seagrave parut avoir perdu plusieurs pouces de sa taille naturelle. Tous deux se retirèrent et restèrent enfermés ensemble fort longtemps, loin des intrus. Lorsqu'ils sortirent de la chambre, monsieur l'inspecteur était très animé, et le sergent bâillait. « Le sergent désire visiter le boudoir de Miss Rachel, » me dit avec solennité M. Seagrave. « Le sergent peut avoir des questions à faire. Veuillez l'accompagner. » Pendant qu'on disposait ainsi de moi, je regardais le célèbre CAF. Le célèbre CAF examinait, lui, monsieur l'inspecteur, avec ce regard tranquille et expectant dont j'ai déjà parlé. Je ne puis affirmer qu'il attendit le moment où son collègue se manifesterait sous la forme d'un âne, mais j'ai tout lieu de ne pas croire mes soupçons téméraires. Je lui montrai le chemin. Le sergent parcourut sans bruit le boudoir et visita le meuble en bois des Indes, questionnant rarement M. Seagrave, s'adressant à moi à tout instant, mais avec une intention que ni l'inspecteur ni moi ne pénétrions. Le cours de ses investigations l'amena devant la porte ornée de la peinture décorative que vous savez. Il posa un doigt interrogateur sur la petite tache faite sous la serrure, tache que l'inspecteur avait déjà remarquée lorsqu'il blâma l'attroupement de nos servantes réunies dans la chambre. « Voici qui est regrettable, » fit le sergent. « Comment cela s'est-il fait ?» C'est à moi que la question s'adressait. Je racontai la petite scène de la matinée, ajoutant que le frôlement des jupons de femme était la cause du dommage. L'inspecteur Seagrave les a renvoyés avant que le mal devînt plus considérable. « Exact, » fit M. Seagrave d'un air militaire. « Je leur donnai l'ordre de sortir. » « Ce sont les jupons, sergent, les jupons qui ont fait cela. »« Avez-vous remarqué lequel des jupons a causé l'accident ?» dit le sergent, sans cesser de s'adresser à moi. « Non, monsieur. » Là-dessus, M. Caff se tourna vers l'officier de police. « Vous avez dû le remarquer, je présume, lui dit-il. » M. l'inspecteur parut vexé, mais il s'en tira de son mieux. « Je ne saurais répondre de ma mémoire à ce sujet, sergent, répondit-il. Ce n'est qu'une bagatelle, une vraie bagatelle. » Le sergent Caff fixa M. Seagrave avec le même regard dédaigneux qu'il avait eu pour les allées sablées dans le parterre des rosiers. Puis, d'un ton mélancolique, il nous donna le premier échantillon que nous eûmes de ses talents si vantés. « J'ai fait la semaine dernière, monsieur l'inspecteur, une enquête privée. Le motif de l'enquête était un meurtre, et dans le cours de l'instruction, on trouva sur une nappe de table une tache d'encre dont personne ne pouvait expliquer l'origine. » Ma longue expérience de la triste vie de ce triste monde ne m'a jamais encore fait rencontrer une chose qui pût être traitée de bagatelle. Avant de faire un pas de plus dans cette affaire-ci, il faudra examiner celui des jupons qui a causé la tache et nous assurer avec certitude du moment précis où cette peinture était encore humide. L'inspecteur, sous le coup de l'humeur que lui causait la leçon, demanda s'il fallait rappeler toutes les femmes. M. Caff réfléchit un instant, soupira et secoua la tête. « Non, dit-il. Éclaircissons d'abord la question de la peinture. Il n'y a là qu'à répondre par oui ou par non. Ce ne pourra être long. Le chapitre des jupons féminins, lui, sera interminable. Quelle heure était-il hier matin lorsque les femmes se trouvaient réunies ici ? Environ 11 heures, n'est-ce pas ? « Y a-t-il une personne de la maison qui sache si la peinture était sèche ou humide, hier matin à 11 heures ?»« Le neveu de Milady, M. Franklin Blake, le sait, répondis-je. Ce monsieur est dans la maison ?»« M. Franklin était autant à notre portée que nous pouvions le désirer. Et il n'attendait que l'occasion de faire connaissance avec l'éminent Caff. Une minute après, il nous rejoignait et faisait la déposition suivante. » Cette porte, sergent, a été peinte par Miss Verinder avec mon aide et au moyen d'un sécatif de ma composition. Ce sécatif sèche n'importe quelle couleur dont on se serve dans l'espace de 12 heures. Vous rappelez-vous le moment où vous avez exécuté la partie qui est abîmée actuellement ? Parfaitement, répondit M. Franklin. C'est la dernière partie que nous achevâmes. Nous tenions à finir notre travail pour mercredi dernier, et je le terminai moi-même vers 3 heures de l'après-midi, ou très près de cette heure-là. « Nous sommes aujourd'hui à vendredi, » dit le sergent, en s'adressant à M. l'inspecteur. « Faisons notre compte, monsieur. Mercredi, à 3 heures, la peinture se trouvait achevée. Le sécatif la sèche en 12 heures, c'est-à-dire qu'elle était séchée vers 3 heures du matin, jeudi. Vous faites la visite de cette pièce jeudi à 11 heures. Ôtez 3 de 11, reste 8. » Cette porte était donc parfaitement sèche depuis 8 heures, monsieur l'inspecteur, quand vous supposiez que le dommage venait d'être causé par les jupons de femme de la maison. Premier coup de grâce porté à monsieur Seagrave. S'il n'avait été assez sot pour soupçonner Pénélope, j'eusse pu le plaindre. La question de la peinture jugée, M. Kaff, dès ce moment, laissa là son collègue comme un sujet incapable et s'adressa à M. Franklin, lequel parut lui offrir infiniment plus de ressources. « Vous avez doublé nos chances, monsieur, en nous donnant une indication aussi précieuse. » Comme il disait ces mots, la porte de Miss Rachel s'ouvrit, et celle-ci s'avança au milieu de nous. Elle s'adressa au sergent, sans paraître se souvenir qu'il lui était absolument étranger. « Ai-je bien entendu ?» demanda-t-elle en désignant M. Franklin. « C'est lui qui a servi à vous fournir des indications ?»«
C'est Miss Verinder, » glissai-je dans l'oreille du sergent.
« Mademoiselle, » dit le sergent, et son œil gris d'acier s'attacha attentivement sur le visage de ma jeune maîtresse, « ce monsieur a peut-être mis dans nos mains le fil conducteur. » Elle essaya de fixer M. Franklin. Je dis « essaya », car elle détourna brusquement les yeux avant qu'ils eussent pu rencontrer les siens. Son esprit semblait étrangement troublé. Elle rougit, puis pâlit affreusement, et sa physionomie prit avec ce dernier changement une expression qui m'alarma. « Maintenant que j'ai répondu à vos questions, miss, » dit le sergent, « je me permettrai de vous en poser une à mon tour. Voici une partie de la peinture de cette porte qui a été écorchée. Savez-vous quand ou par qui cet accident a eu lieu ?» Au lieu de lui répondre, Miss Rachel continua ses questions, comme s'il n'eût pas parlé ou qu'elle ne l'eût pas entendu. « Êtes-vous encore un officier de police ? » demanda-t-elle. « Je suis le sergent Kaff, du bureau des recherches. » Croyez-vous que la vie d'une jeune fille vaille quelque chose? Je serai toujours heureux, miss, de l'entendre. Faites votre devoir à vous tout seul, et ne permettez pas à M. Franklin Blake de vous aider en quoi que ce soit. Elle prononça ces mots avec un accent presque sauvage. Il y avait dans sa voix et son regard une animosité si marquée contre M. Franklin que, quoique j'eusse vu naître Miss Rachel et que je l'aimasse presque à l'égal de Milady, je me sentis honteux d'elle pour la première fois de ma vie. Le regard fixe du sergent ne la quittait pas. « Merci, miss, » lui dit-il. « Pourriez-vous nous donner quelques éclaircissements au sujet de cette tâche? Peut-être l'auriez-vous causée vous-même, par votre inadvertance. Je ne sais rien sur la tâche. » Sur cette réponse, elle nous quitta et s'enferma dans sa chambre. Cette fois, comme les autres, je l'entendis fondre en larmes dès qu'elle fut seule. Je ne pus me résoudre à regarder le sergent. Je levai les yeux sur M. Franklin, près duquel je me trouvais. Il paraissait encore plus affligé que moi de ce qui se passait. « Je vous ai bien prévenu que je me sentais inquiet sur son compte, » me dit-il. « Vous voyez que j'étais dans le vrai. » Miss Verinder est un peu agacée de la perte de son diamant, observa M. Kaff. « C'est un joyau d'un grand prix, et cela se comprend. Très naturel, très naturel. » C'était identiquement là l'excuse que j'avais donnée pour elle à l'inspecteur lorsque le jour précédent elle s'était déjà oubliée devant lui. Et sa conduite se trouvait jugée de même par un étranger qui ne lui portait aucun intérêt. Une sorte de frisson me saisit que je ne pus m'expliquer. Je me rends compte maintenant qu'il faut que j'aie eu alors pour la première fois le pressentiment d'une lumière nouvelle et terrible qui n'éclairerait que trop tôt l'affaire. Et l'intuition que le sergent eut dès lors fut due uniquement à ce qu'il vit et entendit de Miss Rachel pendant cette première entrevue. « Une jeune fille peut se permettre bien des choses, monsieur, » dit le sergent à M. Franklin. « Donc oublions ce qui vient d'avoir lieu et continuons nos affaires. Grâce à vous, nous savons l'heure où la peinture devait être sèche. Le second point à élucider, c'est celui du dernier moment où quelqu'un a eu l'occasion de voir la porte avant qu'elle fût endommagée. Vous êtes un homme intelligent et vous me comprenez. » M. Franklin fit un effort pour détacher sa pensée de Miss Rachel et pour la ramener à ce qu'on lui demandait. « Si je saisis bien votre intention, » dit-il, « plus nous précisons la question de temps, plus nous resserrons aussi le champ des investigations. » « C'est cela même, » reprit le sergent. « Eûtes-vous occasion de revoir votre œuvre depuis son achèvement dans l'après-midi du mercredi ?» M. Franklin secoua la tête négativement et répondit « Je ne puis en répondre. »« Et vous ?» demanda le sergent en m'interpellant. « Je n'y ai pas pris garde non plus, monsieur. »« Quelle est la dernière personne qui a quitté cette chambre le mercredi soir ?»« Miss Rachel, je pense, monsieur. »
Monsieur Franklin m'interrompit. Ou peut-être votre fille, Betteridge. Il se mit en demeure d'expliquer au sergent la position qu'occupait Pénélope auprès de Miss Verinder. Monsieur Betteridge, veuillez demander à votre fille de monter. Attendez, dit le sergent. Il m'emmena à la fenêtre de façon à n'être entendu que de moi et continua à voix basse. Votre inspecteur, me dit-il, m'a remis un rapport volumineux de ses faits et gestes dans la présente occasion. Entre autres choses, il a, de son propre aveu, réussi à exaspérer les domestiques. Il est fort important de les calmer. Transmettez-leur à tous, ainsi qu'à votre fille, ce qui suit, avec mes compliments. D'abord, que je n'ai encore aucune preuve même que le diamant ait été volé. Je constate seulement qu'il est perdu. Puis que je n'ai d'autre mission à remplir ici que de prier les gens de la maison d'aider de tout leur pouvoir les recherches que je fais pour le retrouver. Le souvenir du ressentiment des femmes, lorsqu'on mit l'interdit sur leur chambre, vint promptement à mon secours. Puis-je me permettre, sergent, de vous soumettre la teneur d'un troisième message de paix apporté aux femmes ? Demandai-je. Sont-elles libres de courir à travers les escaliers, d'entrer dans leur chambre et d'en sortir lorsque l'idée leur en prendra ? Parfaitement libres, fut la réponse. Cela vous les conciliera toutes, depuis la cuisinière jusqu'à la laveuse de vaisselle, dis-je. Allez, et ne tardez pas, monsieur Betteridge. Tout fut arrangé en 5 minutes. Il ne me resta qu'à user de mon autorité comme chef de maison pour empêcher toute la troupe féminine de nous suivre, Pénélope et moi, tant leur ardeur à aider le sergent de leur déposition volontaire allait devenir gênante. Le sergent parut apprécier ma Pénélope. Il devint même un tant soit peu moins triste, et la regarda à peu près du même air que je lui avais vu lorsqu'il contemplait la rose musquée au jardin. Voici la déposition de ma fille, reçue par le sergent et faite, à mon avis, très gentiment. Mais, voyez-vous, elle était ma fille en tout point. Il n'y avait rien de sa mère en elle. Elle n'avait rien au monde, Dieu merci, de la mère. Pénélope répond qu'elle a pris l'intérêt le plus vif à cette porte, ayant toujours aidé à mélanger les couleurs, qu'elle a justement remarqué la partie qui était près de la serrure, parce qu'elle a été la dernière achevée. L'a vue quelques heures après, dans un état parfait d'intégrité, et l'a laissée, n'ayant aucun dommage, vers minuit. Souhaitait à 7 heures le bonsoir à sa jeune maîtresse dans sa chambre à coucher, dit avoir entendu l'horloge sonnant minuit lorsqu'elle rentrait dans le boudoir. Qu'elle posait au même moment la main sur la poignée de la porte, savait que la peinture ne pouvait être sèche, puisqu'elle avait assisté à toutes les préparations. S'était donc gardé d'y toucher, et pouvait jurer avoir ramassé tous ses jupons, et que rien n'était endommagé sur la porte à ce moment-là. Qu'elle ne jurerait pas que sa robe n'eût frôlé la porte, se souvenait bien de la robe qu'elle portait ce soir-là, parce qu'elle était neuve et lui avait été donnée par Miss Rachel. Son père s'en souviendrait bien aussi et la reconnaîtrait. Qu'elle pouvait et désirait la montrer. Est allée la chercher, son père reconnaît la robe. On examine toutes les jupes, ceci demande du temps, vu leurs dimensions. On y peut découvrir l'apparence d'une tache de peinture. Fin de la déposition de Pénélope, très naïve et empreinte du caractère de la vérité. Signé Gabriel Betteridge. Le premier soin du sergent fut ensuite de me demander s'il y avait de grands chiens dans la maison, et si l'un d'eux n'aurait pas pu causer l'accident par le frôlement de sa queue. Apprenant que c'était impossible, il demanda une loupe et essaya de se rendre ainsi compte de la nature de la tache. Cet examen ne révéla aucune trace d'empreinte laissée par des doigts. Tout ce qu'on pouvait distinguer se rapportait aux vêtements d'une personne ayant frôlé la porte. Cette personne, d'après l'ensemble des dépositions de M. Franklin et de Pénélope, avait dû se trouver dans la pièce entre 3h du matin, pendant la nuit de mercredi à jeudi. Lorsqu'il en fut arrivé là de son enquête, le sergent Caff parut se douter pour la première fois de la présence de l'inspecteur Seagrave, et résuma ses impressions dans les termes suivants pour l'instruction de son collègue. « Cette bagatelle, comme vous la qualifiez, monsieur l'inspecteur, dit le sergent en désignant le dégât de la porte, a pris une sensible importance depuis le moment où elle a attiré votre attention. Dans l'état présent de l'enquête, je vois trois recherches à poursuivre en partant de cette tâche. S'assurer premièrement s'il y a dans la maison un vêtement qui porte une trace de peinture. Découvrir secondement à qui il appartient. En troisième lieu, savoir comment le possesseur du vêtement peut expliquer sa présence dans cette pièce et le dégât causé à la porte entre minuit et 3 heures du matin. Si l'individu ainsi mis en cause ne peut fournir de réponse satisfaisante à ces deux questions, on n'aura pas loin à aller pour trouver l'auteur du vol. Je me charge par moi-même de cette partie du travail et ne vous retiens pas plus longtemps. Vous avez ici, à ce que je vois, un de vos agents. Veuillez le laisser à ma disposition et permettez-moi de vous saluer. Le respect de l'inspecteur pour M. Caff était grand, mais son amour-propre plus considérable encore. Vivement attaqué, il riposta de son mieux avant de quitter la place. « Je me suis abstenu d'exprimer une opinion qu'on ne me demandait pas, » dit l'inspecteur, de sa voix de commandement bien timbrée. « Mais il me reste une observation à faire avant de remettre la conduite de cette affaire entre vos mains. On a vu des gens, monsieur le sergent, qui donnaient à une taupinière les proportions d'une montagne. Je vous souhaite le bonjour. » On a vu aussi des gens qui ne savaient pas distinguer une taupinière parce qu'ils étaient de trop haute taille pour l'apercevoir. Ayant ainsi riposté, le sergent Caff tourna sur lui-même et marcha vers la fenêtre. Nous attendîmes, M. Franklin et moi, pour voir ce qui allait se passer. Le sergent se tenait à la fenêtre, les mains dans ses poches, sifflotant doucement l'air de la dernière rose d'été. À mesure que je le connus mieux, je découvris qu'il ne s'oubliait à siffler ainsi que lorsque son esprit travaillait assidûment à débrouiller une difficulté ou à tracer un plan de recherche, et que dans ces occasions-là, la dernière rose d'été servait évidemment à l'encourager et à l'aider. Je suppose que cela cadrait avec ses goûts, en lui rappelant sans doute ses roses favorites. Mais cet air, sifflotté par lui, devenait la romance la plus mélancolique qui peut exister. Au bout de quelques minutes, le sergent quitta la fenêtre, marcha jusqu'au milieu de la chambre, puis s'arrêta, absorbé dans ses réflexions et les yeux fixés sur la porte de Miss Rachel. Un instant après, il sembla se réveiller, balança la tête comme pour dire « Cela sera bien ainsi », et s'adressant à moi, il me pria de demander pour lui un quart d'heure d'entretien à Lady Verinda. En sortant de la pièce, j'entendis M. Franklin qui faisait une question au sergent, et je m'arrêtai pour entendre la réponse. « Commencez-vous à deviner qui a pu voler le diamant ?» demandait M. Franklin. « Personne n'a volé le diamant, » répondit M. Caff. Nous tressaillîmes tous deux en entendant cette extraordinaire assertion, et le conjurâmes de nous en donner l'explication. « Attendez un peu, » nous répondit le sergent. Les pièces de ce casse-tête ne sont pas encore toutes réunies.